Donc, je vous ai expliqué les autres fois qu'il y avait les principes de l'obéissance dans l'Ancien Testament et puis qu'il y avait l'obéissance dans le Nouveau Testament. L'obéissance dans le Nouveau Testament est tout à fait différente. Rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre jour dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8 est clair là-dessus. L'obéissance est une grâce. L'obéissance est un travail de Dieu en nous. En condition de dire, oui Seigneur, agis en moi. Évidemment. Hébreux chapitre 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En fait, il y a déjà beaucoup de Juifs convertis à Jésus, et en 2008, quand je suis allé à Beth-Shemesh, en allant me promener avec trois copains, là, les trois amis, dans la montagne, de l'autre côté, voir la petite abbaye, j'ai vu des Juifs venir chercher des Nouveaux Testaments. Il y en a 100 000 par an qui viennent discrètement chercher un Nouveau Testament, une Bible complète, dans leur langue d'origine, russe, roumain, anglais, français, et en araméen, et en hébreu moderne, en hébreu ancien, il y en avait plein, plein, comme la pièce remplie ici, des Bibles partout, imprimées par les Juifs messianiques, et ils font encore rentrer voir l'église avec les mosaïques, et puis hop, ils ont pris les Bibles qu'il leur fallait, ils partent. 100 000 par an. Le plus vieux des prêtres m'a confié ça, mais j'ai dit franchement, parce que ça m'avait intrigué, il faisait qu'apparaître et il repartait. Chez nous ici, tout le monde adore les vieilles pierres, mais pas les Bibles, c'est différent. Donc Israël est en train d'être travaillé par le cœur, par l'esprit, par la voix du cœur, par l'esprit, par la voix de la grâce, et si ça ne paraît pas, c'est pas grave, c'est ce qui est qui compte, c'est pas ce qui paraît à la télévision et dans les journaux. Donc c'est un signe que ce qui s'accomplit dans Romains, chapitre 11, si vous allez dans Romains, chapitre 11, vous allez voir que la promesse est en cours. Romains, chapitre 11, verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, c'est-à-dire cette réalité que je vous dévoile, cette réalité divine que j'ai préparée d'avance pour vous, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, donc orgueilleux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc, beaucoup de peuples ont reçu l'évangile, maintenant c'est au tour d'Israël. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, c'est dans Isaïe, il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, donc ils étaient jaloux, ils ont persécuté les premiers chrétiens, mais maintenant ce n'est plus le cas. C'est les chrétiens, les églises évangéliques qui ont apporté l'évangile aux juifs contemporains. Et ça, c'est l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse chapitre 3, la petite église qui est sans puissance et à qui Dieu a donné des gens de la synagogue. C'est mis clairement dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Donc on est vraiment en train dans la réalisation. Alors, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, donc c'est une page tournée, mais en ce qui concerne l'élection, le choix que Dieu a fait, ils sont aimés à cause de leur père. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, ils vont dans le salut, ils vont dans la voie de Jésus, et moi je l'ai vu à Beth-Shemesh, je ne l'ai pas inventé. Grâce à Dieu, merci Seigneur, j'ai vu ça. Je peux vous dire qu'on est au bout, le figuier reverdi. Le figuier reverdi. Et alentour, le peuple, les peuples hostiles, eh bien, s'acharnent, vont bondir, mais ce qu'il y a, beaucoup de ces gens dans l'autre peuple, déjà sont en train de se convertir. Et ça, la TV, la radio ne le dit pas. Il suffit d'aller dans Ésaïe, au chapitre 19, au chapitre 20, et dans le psaume 87, on voit qu'il va y avoir des conversions en Égypte, en Irak, en Syrie, etc. Qu'est-ce que tu veux dire?
Le verset « Dieu ne se repent pas de ses promesses », c'est où ça?
C'est dans Romains, chapitre 11, verset 29, « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc si, prenons le principe de nous ici dans la salle, si Dieu a touché notre cœur et nous appelle à donner notre vie à Jésus, Bien évidemment, pécheurs comme nous sommes, nous faisons des marches arrière et des marches avant, et parfois on chipote, on tripote. On retombe dans des péchés de passé. Eh bien, Dieu, lui, ne change pas. Je t'ai appelé. Et ce qui se passe, le Seigneur attend que je donne mon oui, que ton oui soit oui, dit Jésus. Et non diable, non péché, que ton nom soit non. Et tout ce qui est entre les deux, entre ton oui et ton non, vient du diable. Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 5. Donc évidemment, l'obéissance est fondamentale, mais c'est une obéissance à un travail de Dieu dans notre cœur. C'est un travail, c'est une obéissance sous l'invitation, sous l'appel de Dieu et sous la grâce de Dieu. C'est plus une obéissance comme dans l'Ancien Testament. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Sinon, quick. Ça, c'était l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'Islam a repris ce système-là. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de la dureté. Hein? Quoique, dans l'Ancien Testament, il y avait quand même, il y a des pages de grâce. Hein? Mais bon, les hommes religieux de l'Ancien Testament ont généralement pris le côté dur, légaliste, et ils ont fait mourir les prophètes et Jésus. Mais il y avait des gens dans la grâce, dans l'Ancien Testament, certainement, en tout cas assoiffés de la grâce, et qui ne voulaient pas ce mensonge des hypocrites religieux. Alors, nous allons aller dans Matthieu, Matthieu chapitre 11. Comprenez bien que nous sommes dans un nouveau temps avec Jésus, avec ce qu'il fait pour nous et ce qu'il fera. S'il a commencé à nous appeler, malgré que nous péchons, s'il nous a appelé à lui, malgré que nous péchons, nous finirons par être lavés de notre péché. Paul l'a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est dans Romains. Alors, Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Il a voulu quoi? Ben, quand il appelle quelqu'un, si cette personne se fait accueillante à la grâce, oui, Dieu va se révéler, va agir. Si elle est résistante et orgueilleuse, ben ça, elle retarde l'accouchement de son nouvel être. Et elle se fait souffrir pour rien. Je vous le dis, parce que le diable en profite. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Donc, Jésus rend grâce pour ce temps venu où il appelle les hommes à se convertir et à recevoir l'Esprit Saint. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors voilà ce qui nous concerne. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus vient nous révéler notre Père des cieux. Jésus fait un acte d'éclaircissement, d'illumination, d'ouverture de notre cœur, de notre esprit, de notre intelligence pour connaître Dieu. Il a ce pouvoir en lui. Alors, il faut se confier au Seigneur. Évidemment, si on se confie en soi-même ou dans les trucs qu'on a connus ou part, ben on se trompe de route. Donc, c'est important. C'est le Fils qui nous révèle le vrai Dieu. OK? Et cette façon de révéler que Jésus a, il le fait de manière douce, de manière humble. Il veut toucher notre cœur. Regardez, continuons les versets, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Donc vous voyez bien que la théorie calviniste, pour moi, est trop dure. Il y a comme une invitation à répondre, « Venez à moi ». On n'est pas sous une grâce automatique avec le forcing. Ah, j'ai été appelé, etc. Et alors, les autres ne sont pas appelés, alors. Les autres ne sont pas appelés, ben, ils peuvent... je n'évangélise pas. Il n'y a que ceux qui sont appelés qui sont sauvés. Donc, j'ai plus besoin d'évangéliser. Ou, le chrétien, là, il mène sa vie n'importe comment. Je ne m'en occupe plus, hein. Je m'en occupe plus, hein, c'est qu'il n'est pas appelé. Hein. L'esprit de jugement, de condamnation. Mais non! Combien de fois on voit dans la parole de Dieu qu'il fallait soutenir les frères, les sœurs et les ramener vers le Seigneur, leur apprendre à se dégager des filets du diable qu'ils jettent sous leurs pieds. Donc, nous avons un esprit de responsabilité, nous avons une part. Alors, verset 29, « Prenez mon joug sur vous, donc ça veut dire oracle, parole. Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. La paix vient dans la dépendance à Jésus. Mais moi, je vais vous dire franchement, je peux encore travailler au jardin. Il peut encore faire des choses de mon dos et de mes bras, alors qu'à des moments, j'ai cru que j'étais foutu, complètement foutu. Et pourquoi ? Parce que j'ai appris, dans toutes les épreuves, à retrouver le repos de mon corps et de mon âme en Dieu. Du corps et de l'âme. Et ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des farandoles bibliques, c'est de la réalité spirituelle. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Jésus agit pour celui qui se laisse agir par lui. Vous laissez agir. Donc l'obéissance, c'est une soumission à Christ. C'est un accueil de Christ. Et c'est pas Moïse, qui casse les pierres et puis prend, il y en a 7000 qui vont être tués. Non, Jésus, c'est pas tout à fait la même méthode. Peut-être bien que Moïse devait le faire, parce que c'était grave. Même son frère Aaron avait fait construire l'idole. Alors, quoique, quand Aaron a été repris par Moïse pour servir Dieu, il y a quand même une miséricorde infinie sur Aaron. Et Myriam aussi, à d'autres moments qui a fait des crises. Alors, regardons Matthieu 12, verset 48. Matthieu 12, verset 48. Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Jésus est tout simple, Étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » La simplicité de Jésus, vous imaginez, le Fils de Dieu qui dit ça, « Voilà, voilà ceux que j'aime, voilà ceux qui m'aiment. » Il n'y a pas plus simple que ça, non ? Et plus proche de la vérité, du cœur. Et verset 50, « Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma mère. » Bon, ça veut dire quoi ? Quelle réponse de l'homme tout de même ? C'est pas l'automatisme calviniste, pur et dur. Alors, prenons la 2e aux Corinthiens, chapitre 3. 2e aux Corinthiens, chapitre 3. Tout simplement, ce que j'essaye d'éveiller, c'est cet esprit, par la prédication, c'est cet esprit d'obéissance à Dieu. Mais qui est une vraie obéissance, pas du plaqué-collé. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc l'Ancien Testament, tu feras ci, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça, c'était légitime, c'était bien. La loi est bonne, mais ce qu'il y a, faut. Comme je vous l'ai dit l'autre dimanche, dans Timothée, elle convient pour les inconvertis, les irréligieux, les parricides, etc. Mais pour celui qui est pardonné de ses péchés, pour le juste, il y a autre chose comme chemin, c'est Jésus. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, pas moyen de connaître Dieu. Ni soi-même. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Jésus, le voile est ôté. Donc il y a un contact, une relation avec Dieu qui est établie. Convertir, c'est changer de vie, Je ne vais pas dire, oui, je crois, et puis j'ai changé 25% de ma vie, Seigneur. C'est bien, C'est pas ça que Dieu a demandé, Ça, on mérite un coup de pompe, un coup de pied dans l'arrière, C'est pas, comme un jour quelqu'un m'a dit, Jean, ne mets pas, je lui disais que j'essayais de mettre ma vie en ordre, pas à moitié qu'il m'a dit, complètement qu'il m'a dit. Cet homme-là, je m'en rappellerai toujours, il avait mon âge, l'âge que j'ai maintenant. Et moi j'en avais quoi ? 40 ? Ben oui, 40 ans, on se figure encore, des choses. Encore moins maintenant, un peu moins, mais tu te figures peu, plus trop de choses. Plus on avance, il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle. Alors, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit Saint, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tiens, nous trouvons la liberté. En étant avec Jésus, nous trouvons une immense liberté. Bien, bien sûr. Le diable ne nous emberlificote plus. Nous tous, et le péché, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc je suis devant un miroir et je regarde. Ben, je ne suis plus comme avant. Ben, depuis que j'ai Jésus dans ma vie, mais j'ai changé. Ben, et puis, on avance en âge, on se dit, mais il ne reste plus rien de ce que j'étais. Mais il ne reste plus rien de ce que j'étais. Ben ça c'est bon signe s'il ne reste plus rien de ce que j'étais. Ben, Jésus m'a changé tellement que ça. Ben oui, tant mieux. C'est ça dans le miroir. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphos en grec, en la même image. Donc, transformés pour ressembler à Jésus. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc ici, ce verset montre bien que l'Esprit Saint est Dieu, est divin, contrairement à ce que disent ces témoins de Jéhovah. Et les adventistes. Alors, pratiquement, continuons. Où c'est, où est-ce que Dieu agit? Marc chapitre 7, où est-ce que Dieu agit? Ah, ben il agit là où il y a l'abcès. Là où il y a le problème. C'est là qu'il agit. Ah, où est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'il va mettre son bistouri, le Seigneur? Marc chapitre 7. Verset 21 à 23. Quand je dis ça, tout ça, ça me concerne autant que vous, hein. Chapitre 7 de Marc, verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. La fraude, c'est le mensonge. C'est allier le péché, les œuvres du malin et Dieu, hein. C'est vouloir faire un tout quoi. C'est bien, ce, j'arrange ma foi à ma façon. Oui, ça c'est la fraude. Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tiens, voilà où ce que Dieu veut agir. Voilà où Jésus veut régner. N'est-ce pas? Mon cher Lémuel, pour vous aussi. C'est là qu'il voudra régner. C'est là qu'il voudra régner. Alors, considérons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est passionnant la parole de Dieu. Je n'ai jamais trouvé de choses plus vraies que dans la parole de Dieu. J'aime bien la science, j'ai toujours bien aimé la nature. C'est beau, c'est bien, magnifique. Mais la parole de Dieu, c'est sublime. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc toutes les tentations sont humaines, elles ne viennent pas de Dieu. C'est clair. Dieu ne nous tente pas. Ce n'est pas lui qui nous met des attrape-nigauds, pan, des croche-pieds. Si on a des problèmes de tentation, d'égarement, eh bien il va falloir s'examiner soi-même. Parce que ça vient de l'humain. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle, et qui n'est pas humain. Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu, mais Dieu dans les cieux n'est pas humain. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Donc,
1 Corinthiens 10-13, qu'est-ce que fait Dieu? Il sait qu'il y a des forces en nous, humaines, pour nous mettre à terre. Il y a des forces humaines en nous pour nous égarer. Il y a des forces humaines en nous, des convoitises, des envies, des révoltes, de l'orgueil. Toutes ces forces-là, elles ne seront pas suffisamment puissantes contre Jésus. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, c'est ça qui est quand même drôle, c'est que Dieu laisse un certain temps le cafouillis régner dans la vie des chrétiens. Hein, ils laissent des fois, Seigneur, mon Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma soeur. Et puis, nous disons, pardonne-moi, Seigneur, je suis encore retombé là-dedans. Pardonne-moi, Seigneur, je n'avance pas. J'ai même reculé. Seigneur, au secours. Je voudrais bien plus répondre à ta volonté, Seigneur. Ben oui, mais avec la tentation, j'ai la honte. Avec la tentation, j'ai pris conscience que je peux rien sans mon Seigneur, sans mon Dieu. Adieu l'orgueil, adieu la vanité. Vive l'humilité. L'orgueil doit mourir. La vanité doit disparaître. C'est comme un accouchement. Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc tout ce que nous vivons en nous, et qui est conflictuel souvent, et qui amène des souffrances, amène parfois des choses graves, dans les paroles, dans les gestes, dans des omissions aussi, des choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, pour Dieu, pour les autres, eh bien, Dieu nous veut nous sortir de ce bourbier de l'humain, il veut installer en nous l'être nouveau, le Christ. Donc, aucune tentation, aucun conflit interne, aucun marasme spirituel dans la vie d'un chrétien n'a finalement l'autorité et la victoire. C'est le Seigneur qui a la victoire. C'est pour ça que dans une église, vous priez les uns pour les autres. Pour que la victoire de Christ soit sur chacun de nous. Parce que si on s'amuse à regarder les fautes de tout le monde, ben le dimanche d'après, on ne vient plus. Hein. C'est tout. Il faut le régler une fois pour toutes alors. Prenons Romains 15. Romains 15. Nous sommes une assemblée de pécheurs réunis par quelqu'un de saint, qui est Jésus. Quelqu'un de saint, très saint, Jésus. Mais très bon, très patient avec nous. Ce Jésus de Nazareth. Plus patient que lui, on ne trouve pas. Alors, comment il s'y prend Jésus? Ah, il me faudrait bien une vision, il me faudrait bien une extase, il me faudrait bien quelque chose d'exceptionnel. Mais nous avons l'exceptionnel tous les jours, à toute heure, quand nous le voulons. Romains 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance ici, le mot, hein, il est devenu faible en français, la certitude, la conviction si vous voulez. Tout ce qui a été écrit d'avance, donc l'Ancien Testament, tout avant Romains, hein, Romains c'est écrit vers les années 52-55, donc tout ce qui est écrit d'avance c'est l'Ancien Testament. L'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc en lisant la parole de Dieu, je vais développer un don que Dieu va me donner, c'est la patience. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'y vois plus clair. Mais je vais te faire confiance, je vais attendre. Quand la nuit sera finie, quand la souffrance sera finie, Seigneur, je sais. Ça sera tout autre. Quand le tunnel est traversé, on est de l'autre côté, on est en Italie, dans le Val d'Aoste. Hein? C'est pas beau le Val d'Aoste, si? Ben si. Alors, par la consolation, ben oui, j'en ai tellement marre, j'en ai tellement, non. Mais le Seigneur peut me consoler. Est-ce que j'attends qu'il me console? Ou... Oh, je vais regarder des films. Oh, je vais manger encore plus. Oh, je vais m'acheter une grosse bagnole. Oh, je vais trouver une jolie nana. Oh, il me faut un beau mec. Oh, un nouveau costume, des belles godasses. Oh, un bon compte en banque. C'est ça les consolations. Mais demain, on peut tout perdre, les amis. La consolation, c'est l'amour de Dieu en moi. Qui me donne la paix, qui me restaure, je me sens aimé. Combien de fois? À bout, je me mettais devant le Seigneur et que le Seigneur me disait, mais fais confiance, je t'aime. Je ne m'aimais plus moi-même. J'étais plus capable de m'aimer moi-même, et le Seigneur me disait, je t'aime. Ben, la consolation, et puis, Alors, au lieu de me traîner, hein, À un moment donné, je disais, ben, il y en a un tel, ça ne lui va pas. Il y en a une telle qui est malade. Il y en a un tel qui est... Ben, j'irai bien le voir. Et je partais voir l'autre, j'allais rendre visite ou rendre service à un tel. Et dans le trajet, tout était fini. Boum ! J'étais comme à la fiesta. Bizarre, ça, la consolation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne la paix quand on est dans sa volonté. Et quand on sort de son petit moi. Ou son grand moi, peu importe. Quand on sort de l'enfer du moi-je, quand on va dans le chemin que le Seigneur nous donne, on trouve la consolation. Ben oui, des milliers de fois, j'ai fait l'expérience. Mais, les amis, quand on est dans la glu, des fois on ne regarde que la glu. Et on y reste collé. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment chercher, vraiment, je passe le cap. Seigneur, allez, je me secoue, je bouge. Je ne m'écoute plus. Je ne m'écoute plus, je t'écoute. Alors, la consolation que donnent les Écritures, que nous possédions la conviction. Hein? C'est ça la conviction. C'est le chemin sûr, assuré. Romains chapitre 8. Donc, quand on parle d'obéissance, les amis, on est quand même loin de l'Ancien Testament, tout d'un coup, avec tout ce que j'essaye de vous expliquer. Hein, et que Dieu explique encore beaucoup mieux que moi. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Me laissant conduire par l'Esprit Saint, je mets en œuvre le projet de Dieu, je suis son enfant. Je l'écoute. Qu'est-ce qu'un papa et une maman attendent des enfants? Ben, c'est qu'ils les écoutent, dans le Bible. Quand c'est l'heure d'aller coucher, ils allaient coucher. Quand c'est l'heure d'aller à l'école, ils allaient à l'école. Qu'ils se mettent à table sans faire le bazar. Qu'ils se lavent les mains. Qu'ils s'habillent à temps. Qu'ils ne s'habillent pas de travers. Qu'ils ne laissent pas traîner les souliers partout. Les culottes partout. Hein? Qu'ils aillent se brosser les dents. Pour ne pas sentir le crocodile. Alors, pratiquement, comme moi, pratiquement, hein, alors, pratiquement, ce qui se passe, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, filles de Dieu. Il faut être conduit. Et si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ben on est conduit par notre folie, par notre cœur mauvais, ou par le copain d'en dessous qui nous met des drôles d'idées dans la tête. Le faux copain, l'ennemi de nos âmes. Regardons le verset 26. Romains 8, verset 26. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, Saint-Caïd. Pratiquement, je me rappelle quand j'étais écrasé, hein, écrasé, ce jour-là. Et que cet homme est venu s'asseoir à côté de moi, je ne comprenais pas pourquoi il venait. Mais il n'était pas dans la communauté, pas avec les autres. Il est venu s'asseoir à côté de moi, puis il est revenu me trouver. Et bien, après, j'ai retrouvé ma force et ma lucidité. Ce jour-là, je n'avais plus rien du tout. Sur la caisse, comme on dit. Et pratiquement, c'est Dieu qui, dans son amour, m'a redonné la capacité de marcher, et je travaillais ce jour-là, la capacité de voir. Regarde-le bien. Je vais t'expliquer qui il est. Pratiquement, Dieu concourt au bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés selon son dessein. Avez-vous la conviction que le Seigneur vous a appelé à être dans son paradis? Avez-vous la conviction que Jésus est mort sur la croix pour vous? Avez-vous la conviction de vouloir perdre tous les péchés, tous les mensonges, toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres humaines, et de ne recevoir en vous que les œuvres de Dieu? Avez-vous la conviction d'être le temple de Dieu? Avez-vous la conviction d'être un jour totalement d'appartenir à Dieu? Si vous avez conviction, hâtez-vous, lentement, hâtez-vous, c'est-à-dire faites le maximum pour y arriver. C'est ça que dit Paul. J'ai été saisi par Christ. Et moi aussi, je cours afin de le saisir. Paul a dit ça dans Galates, n'est-ce pas? C'est ça la vraie obéissance. La vraie obéissance, c'est la passion, c'est l'amour de Christ. La vraie obéissance, c'est la passion, c'est l'amour de Christ. Hein. C'est pas un cœur froid qui est toujours tourné sur lui-même et... Et les amis, s'il n'y a pas de torrent d'amour dans mon cœur, qu'est-ce que c'est que mon cœur? C'est une rivière desséchée. Et c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Jean 18. Jean 18. Verset 33. Quelle heure avons-nous?
Midi
quart. Midi quart, déjà. Jean 18, verset 33. Le problème là, c'est que c'est un problème crucial. Vous allez voir pourquoi. Je vais expliquer après, déjà avec tout ce qui a été dit. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jean, chapitre 18, verset 33 et suivant. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Regardez comment Jésus confronte Pilate. Et là, arrête de jouer ton petit personnage, dis-moi ce que tu as dans... Tu penses, toi? Eh bien, dans nos relations spirituelles avec le Seigneur, tôt ou tard, hein, même si ce n'est pas encore arrivé, ou si c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Arrête de jouer, dis-moi, toi, ce que tu penses. Et ne te cache plus derrière rien du tout. Hein? C'est pour ça que dans Jean chapitre 21, quand Pierre a trahi, il est en train de pécher, ça ne va pas. Alors qu'il est un homme de métier, il n'arrive pas à pécher. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Allez, hop, ne pense plus aux autres, ne regarde pas à droite et à gauche, m'aimes-tu? Sans regarder aux autres. Voilà. Voilà ce qui me concerne. Voilà ce qui nous concerne. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Tu t'appuies sur le baratin, sur ce que tu as entendu, sur une émission, sur un truc d'internet ou quoi? Ou est-ce que je suis vraiment en face de toi? Alors, sois en face de moi aussi. Comme lui de Funès là. Avec les doigts là dans les yeux. Lui de Funès, il faisait beaucoup de grimaces comme ça lui. Mais je comprends, hein. Ça peut être important des fois, de se rappeler qu'on est en face de lui, de Seigneur. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Isabine, ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Donc il s'est débiné, il n'a pas répondu. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux responsables juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, quand j'écoute Jésus, je lis l'évangile régulièrement et que je prie, je médite ce que Jésus a dit, Seigneur Jésus, ouvre-moi mon cœur, montre-moi ce que tu veux pour moi. Enseigne-moi. Hein? Inscris tes paroles dans mon âme, Seigneur. Prends le gouvernail de ma vie. Je sais que tout ce que tu me diras est vrai. Tout ce que tu me feras comprendre est vrai. Eh bien, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. J'ai l'amour de la vérité. J'ai l'amour de ce que Jésus veut faire en moi. Et, à ce moment-là, il est mon roi. Je suis dans le royaume de Dieu. Si je ne fais pas ça, ben je ne suis pas dans le royaume de Dieu, je suis à côté. Qui met quelqu'un hors de la présence de Dieu? Qui? Dieu ou moi? C'est moi qui me mets hors de la présence de Dieu. C'est moi qui peux me mettre dehors. J'ai une responsabilité, donc je ne suis pas un calviniste. Je pense que la doctrine donne toute la place à la sainteté de Dieu, à sa révélation, à sa grâce, mais elle donne la place aussi à ma responsabilité. Oui, Seigneur Jésus, tu es mon roi. Eh bien, dans la prière, les amis, il faut commencer par ça pour que le diable recule. Et que la maladie recule, et que les tourments reculent, dépression, etc., les soucis reculent, et qu'on ait la paix dans le cœur. Oui, Seigneur Jésus, tu es mon roi. C'est à toi que j'appartiens. À personne d'autre. Tu as donné ta vie pour moi. C'est toi qui m'as aimé toujours, de toute éternité, avant que je sois né. C'est toi qui m'aimeras éternellement. C'est toi qui m'as donné une épouse. C'est toi qui m'as donné des enfants. C'est toi qui m'as donné un conjoint. C'est toi qui m'as donné un toit. C'est toi qui m'as donné un jardin. C'est toi qui me donne le soleil. C'est toi qui me donne la pluie. C'est toi qui me donne à manger sur la table. Seigneur, tu es mon roi. Plus on rend grâce, plus le roi de place, moins le diable en a. La royauté s'installe dans ma maison, dans ma vie. Si je fais le contraire, eh ben le diable, il va aller. Sans le faire, on a ouvert les portes, les placards, et il va agir, hein? Il va agir. On a toujours un maître. On a toujours un maître. Lequel est-ce que je veux? Mais si le Seigneur est mon roi, je dois lui dire. Je dois l'adorer. Je dois l'adorer. Matthieu 21. La richesse de ma vie spirituelle, c'est l'adoration. Combien de fois, les premières années de ma vie chrétienne, évangélique, je me rappelle quelqu'un qui faisait 60 km pour venir prêcher, il prêchait trois fois par an à l'église à Saint-Marc, et bien pratiquement il me disait, Jean, en sortant, Jean, n'oublie jamais que tu avances, la meilleure façon que tu avanceras le mieux et le plus vite, c'est à genoux. Vous courez toujours, je ne peux pas oublier des paroles pareilles. Ben, naturellement, c'est pas marrant des fois, hein, c'est dur, hein, avancer à genoux. Il faut savoir s'abaisser. Jésus l'a dit, celui qui s'abaisse, je l'élèverai. Ben oui. Alors, Matthieu, chapitre 21, verset 42. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Les amis, si je suis comme les responsables juifs de l'époque de Jésus, ou d'avant, qui ont tué les prophètes, qui ont fait exécuter Jésus, si je suis quelqu'un qui rejette Jésus continuellement, consciemment ou inconsciemment, eh bien, il n'y a rien qui se construit. Il n'y a pas la pierre d'angle pour construire. Mais si je mets Jésus comme pierre d'angle, c'est-à-dire au point de départ de ma journée et de ma nuit, le Seigneur vient dans ma vie et c'est un prodige. Le grand Dieu de l'univers vient dans ma vie, tiens. On ne m'avait jamais dit ça. Oh oui, mais on me l'a déjà dit, mais j'y crois pas trop. Je ne l'ai jamais vu. Ah ben oui. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, a dit Jésus. Le prodige de Dieu, c'est de venir dans ma vie. Si je le considère comme la pierre angulaire, la pierre de base de ma journée, de ma nuit. Je suis rentré dans une famille où il y avait des tous, le chat parlait, les tables bougeaient, les armoires bougeaient. Bon, alors pratiquement, dans le lit on me touche, le lit me soulevait. Des années, j'ai voulu faire l'étude biblique. Ils n'en ont pas voulu. 15 ans, au moins 15 ans après, on me rappelle. Les gens sont durs, hein? 15 ans après. Alors, ah oui, on voudrait bien, on voudrait bien. Mais j'ai dit, vous allez vous endormir, vous allez dire, Seigneur Jésus, je te donne ma nuit. Et puis, c'est bizarre avec vous, il ne vient plus. Et s'il revient, tu diras, arrière Satan, nom de Jésus. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il a fallu que je leur explique que Jésus est mort sur la croix pour leur péché. Et en disant, est-ce que vous avez reconnu que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Jésus pour être sauvé? Ah, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que M. le curé m'apporte la communion. J'ai été baptisé à l'Église catholique. Je crois la Sainte Vierge. J'ai mes statues, mes images, mes médailles. Est-ce que vous croyez que le salut vient de Jésus, que Jésus est mort pour vous sur la croix? Oui? Alors tout le reste. Alors, montrez-lui qu'il est important alors, et que vous ne le mélangez pas avec le reste. C'est là le prodige. Jésus vient quand un cœur est entier pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des protestants qui sont trafiquants de la parole de Dieu? Oui, il y en a beaucoup. Des évangéliques qui sont trafiquants de la parole de Dieu? Oui! tellement habitués à voir la Bible qu'on l'ouvre sans aimer Jésus, sans se donner à lui. C'est pas mieux. C'est comme celui qui a levé un finir monsieur le curé pour avoir la communion. Il a sa Bible. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur et on n'accepte pas qu'il soit le prodige de ma vie. On n'accepte pas que ce soit lui le plus grand dans ma vie, la pierre angulaire. Je vous le dis d'avance, il ne faut pas se heurter à Jésus. Regardez verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Autant Jésus est bon et patient, si vous jouez au plus fin avec lui, vous serez brisé. Le jour qu'il viendra pour juger. Il viendra un jour pour juger. Vous serez brisé. Fini. Donc, dans Jésus, il y a une grandeur, une majesté à accepter. Une grandeur, il y a une déférence, il y a un respect infini à avoir envers sa personne. Infini. Matthieu 23, 39. Matthieu 23, 39. Vous voyez bien que l'obéissance n'est pas une question de terreur, c'est une question de sérieux. Il y a un tel amour, il y a une telle personne d'amour, de vérité, qui est là, qui veut s'installer dans ma vie, me diriger, qui est la fondation, la pierre angulaire, mais il me réclame, non pas d'être dans la terreur, d'être sérieux avec lui. Et si je ne suis pas sérieux, je serai dans la terreur un jour quand je le verrai face à face. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas lui la terreur. C'est moi qui ai semé ma terreur. C'est moi qui suis responsable de mon épouvante quand je le verrai. Mais si j'ai été sérieux avec lui, je n'ai aucune crainte, aucune confusion. Il viendra, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Je serai avec lui. Je serai dans sa paix, dans sa gloire, dans sa plénitude. C'est nous qui jouons à nous faire du mal quand on n'est pas sérieux avec lui. Ce n'est pas lui qui fait le mal, en rien du tout. C'est nous qui posons le jugement sur nous-mêmes si nous jouons avec le Seigneur. 23, 39. Je vous le dis. Vous ne me verrez plus désormais, donc Jésus dit ça, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, de Adonai. Tous les jours, je dois dire Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma famille, viens dans mes enfants, viens dans mon champ. Viens dans ma voiture quand je pars en voyage. Sois là avec moi dans mon lit. Sois là avec moi quand je suis bien, je suis en bonne santé. Sois là avec moi, Seigneur, quand je suis mal. Je me confie en toi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque je peux faire cela, le Seigneur, il est temps qu'il revienne. Il est temps qu'il revienne. Je suis prêt. Je suis prêt, les amis. Nous allons, bien sûr, devoir abandonner. On verra la suite une autre fois. Mais dans Apocalypse, chapitre 20, je vous lis quand même, c'est un texte formidable. La responsabilité de notre vie chrétienne. Chapitre 20. Apocalypse, je me suis peut-être trompé. Je vais regarder, 21, 11. Oui, probablement. Allez, prenons le chapitre 22. Versets 11 à 14. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu veux être injuste, tu ne veux pas obéir, ben n'obéis pas. Moi je te laisse faire. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu veux te rouler dans la boue du péché et de tous les trucs du diable, fais-le. Tu peux le choisir. Et que le juste pratique encore la justice. C'est-à-dire que celui qui est obéi à Dieu et qui aime la sainteté, continue dans ce chemin-là et persévère. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, celui qui a déjà accepté d'être transformé, c'est ça que je vous disais dans le miroir, qu'il accepte encore de perdre des choses mauvaises, des choses souillées, des choses venues des parents, de tout, du passé, et de laisser s'installer toutes les choses de Dieu en lui, toutes les vertus de Christ en lui. Alors, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on voit la responsabilité du chrétien. Ce n'est pas l'automatisme calviniste. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon mon sens de la responsabilité, selon le don que j'ai fait, je recevrai en fonction. J'aurai à la mesure de ce que j'ai mesuré. Si j'ai mesuré très peu, Seigneur, ou un petit peu que je te prenne, très peu. Si j'ai donné beaucoup de moi-même, beaucoup de mon cœur et de ma vie, le Seigneur va abonder. Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire le début et la fin de l'alphabet grec, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, notre robe, notre vêtement, le laver pour ne pas être souillé, pour être présentable devant Dieu. C'est l'image de ceux qui acceptent que la parole de Dieu les lave, les purifie. Pourquoi avoir droit à l'arbre de vie, à Christ? D'entrer dans les portes de la ville, la Jérusalem céleste, qui viendra sur terre. Dehors les chiens, les enchanteurs, donc ceux qui utilisent des pouvoirs spirituels venus de l'ennemi, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises, Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc Jésus a affirmé ça dans les églises. Nous sommes dans une de ces églises. Donc Jésus nous parle. Seigneur, je désire t'écouter avec amour, avec passion. Je désire t'écouter, bien qu'il y a des forces contraires en moi. Il y a beaucoup d'impureté, il y a beaucoup de révolte. Il y a souvent de la vanité. Seigneur, je te pardonne tout. Parce que finalement, je sais que tout ça, c'est perdant. Je sais, Seigneur, que c'est toi la victoire de ma vie. C'est toi le prix précieux que Dieu m'a offert. Le joyau incomparable. C'est toi l'amour de ma vie, Seigneur. Sois dans ma vie, Seigneur. Sois le bienvenu. Et transforme tout en moi. Achève en moi ce que tu as commencé, Seigneur Jésus. Donne-moi l'esprit d'obéissance par amour. Que ton Saint-Esprit soit plus fort que toutes mes mauvaises tendances. Que ton Saint-Esprit vienne en aide à ma faiblesse. Mes si nombreuses faiblesses. Mes si nombreux péchés, que ton Saint-Esprit ait la victoire, Seigneur. Que ta parole me corrige, m'instruise, m'enseigne, m'illumine, Seigneur. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.